les podcasts du Rond-Point. Épisode spécial en partenariat avec Télérama. Fabienne Pasco, directrice de la rédaction, rencontre Isabelle Huppert. Au théâtre comme au cinéma, la comédienne n'a de cesse d'enchaîner les personnages paradoxaux et de dépasser limites et frontières. Lors de cet entretien au Rond-Point, elle nous explique comment elle y parvient.
Isabelle Huppert, vous restez toujours la première de la classe. Première de la classe parce que de plus en plus insolente, de plus en plus libre. On ne vous aurait jamais imaginé dans la Daronne de Jean-Paul Salomé, dans laquelle on vous a vu récemment, parce que à ces films plus grand public et un peu commerciaux, vous n'hésitez pas à conjuguer sans cesse depuis vos débuts le cinéma d'auteur, comme vous savez alterner aussi le cinéma avec le théâtre le plus exigeant, que ce soit celui de Bob Wilson, de Varlikovsky et de tant d'autres encore, de Luc Bondy, du regretté Luc Bondy. Il semble que plus le temps passe sur vous et plus vous deveniez jeune, insouciante et libre. Alors, il y a un an, Sandrine Wesset faisait un documentaire sur vous qu'elle appelait le mystère Huppert. William Carell, à la rentrée sur Arte, a fait un remarquable documentaire portrait de vous, Isabelle Huppert, message personnel. Alors, ce mystère Huppert, on va commencer par ça, c'est le plus difficile, c'est quoi?
On commence, oui, par le plus difficile. C'est pas à moi de le dire, je crois. Si tant est qu'il y en ait un. C'est des formules. C'est des perceptions de l'extérieur. Elles ont certainement leur légitimité. Évidemment, on peut pas tout à fait les croire quand on les entend à son propos. Mettez-vous à ma place. Je vous crois que vous en feriez autant. Des mots qui sont un petit peu comme des poids, des... Oui, qui peuvent raconter quelque chose pour ceux qui les formulent et ceux qui les entendent. Mais pour les principaux intéressés, en l'occurrence moi, évidemment qu'ils résonnent d'une manière un peu littéraire, un peu lointaine, un petit peu incomplète, forcément.
Mais quand vous abordez un personnage, avec la distance que vous y mettez, vous avez envie de lui garder sa part de mystère à ce personnage.
Oui, mais ça n'est pas que moi qui lui confère sa part de mystère, c'est toute l'aventure du film. Moi, je ne suis pas seule dans cette entreprise, c'est le regard que porte le metteur en scène, c'est la manière dont ce personnage est enchâssé dans sa propre histoire, dont il est porté par le film. Évidemment que chaque acteur y met évidemment volontairement ou involontairement son essence même, son esprit, ce dont il est constitué. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un mystère, c'est peut-être, oui, laisser toujours une page blanche, en tous les cas, autour de ces personnages, et à charge pour le lecteur, en l'occurrence le spectateur, qui est aussi un lecteur, d'une certaine manière, qui déchiffre, comme il l'entend, cette page blanche qui lui est offerte.
J'ai vu que votre père fabriquait des coffres-forts.
Enfin, il ne les fabriquait pas lui-même.
Non, mais enfin,
pas
il
de ses, pas
une
de
entreprise
ses propres qui... mains, mais une, oui, il travaille dans une entreprise.
Il y a du secret dans les coffres-forts.
Oui, il y a du secret, oui. Oui, si on veut trouver des symboles, des signes, des explications, il y en a légion dans l'enfance de chacun. Donc, il y a aussi celle-là, évidemment.
Il y avait une culture du secret dans votre famille, par exemple?
Il y avait
vous
une
avez
culture
grandi
du secret, oui,
là-dedans?
Oui, bien sûr, oui. Peut-être comme dans toutes les familles, mais dans la mienne en particulier, oui. Enfin, une culture, je ne sais pas si on peut appeler ça une culture. Mais il y avait l'idée du secret, oui.
Et ça favorise une carrière de comédienne, l'envie de sortir de ça ou...
Ah, ça, je ne sais pas du tout ce qui favorise une vie d'actrice, une vie, j'allais dire, sans du tout vouloir échapper à la réponse, une vie telle qu'elle est, pourquoi elle se dessine de cette manière-là ou d'une autre. Évidemment, une vie d'actrice ou une vie peut-être même de metteur en scène, d'écrivain, c'est plus particulier parce que c'est quelque chose aussi qui vous est donné. une vie de chanteuse aussi, encore plus. Et, donc c'est quelque chose qu'on... Peut-être moins pour un acteur que pour une danseuse ou un chanteur, un musicien, un peintre. Je ne peux pas tout à fait associer l'art dramatique à ces formes-là d'expression que je pense plus élevées en tous les cas.
Mais dans le milieu bourgeois auquel vous appartenez, comment c'est venu cette envie d'être comédienne ?
Ben je ne sais pas. C'est venu. Ça, il est sûr que c'est venu et que ça n'a jamais été réprimé ni par moi-même ni par ceux qui m'entouraient. Donc elle a été favorisée puisque n'étant pas du tout réprimée. Mais c'est tellement difficile de savoir pourquoi ça vient, pourquoi on s'y sent bien. Rien ne m'y prédisposait. Et je comprends en même temps le sens de vos questions, parce que moi, je suis toujours, quand je lis encore maintenant des parcours d'acteurs et d'actrices, je suis toujours étonnée de c'est une question qu'on se pose, qu'est-ce qui mène chaque individu en particulier, mais en l'occurrence les acteurs et les actrices, parce que c'est de cela qu'on parle, qu'est-ce qui les mène sur cette route-là, souvent dans des parcours tout à fait inattendus, en tous les cas.
Des lectures, des spectacles qu'on
Oui,
a
beaucoup
pu
de
voir.
Spectacles, oui, bien sûr. Oui, oui, quand même, oui, beaucoup de lectures, beaucoup de théâtre, oui, oui.
Que vous vous alliez voir avec vos parents ?
Avec ma mère, oui, oui, beaucoup.
Oui, quoi, par exemple ?
Les matinées classiques de la Comédie-Française, et puis d'autres pièces, plutôt dans des théâtres... je sais pas, j'ai le souvenir d'être allée au Théâtre Héberto, au Théâtre... Enfin, je n'y allais pas, comme j'irais maintenant, mais j'y allais, quand même, bien sûr.
Quand vous revoyez les films de vos débuts, vous avez l'impression d'avoir changé ?
Pas tellement. Pas tellement.
Isabelle Huppert était déjà en germe dans ces rôles-là ?
Oh, je crois, oui. Enfin, je vois pas... On se transforme, mais on ne change pas, je pense. Pas tout à fait pareil. La transformation et le changement. C'est-à-dire, le changement, c'est qu'on deviendrait une autre. Moi, on ne devient pas une autre, on se transforme.
Parce que votre parcours, c'est de plus en plus épuré. Votre jeu, c'est de plus en plus épuré.
Épuré
Avec parfois des passages vers la comédie franche.
Ce n'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit, non. Je pense surtout que, encore une fois... à chaque film, à chaque période, à chaque metteur en scène aussi, parce qu'il s'agit toujours de rencontres dans un parcours quel qu'il soit, j'allais dire, mais en tous les cas d'acteurs et d'actrices, dans le mien en particulier, c'est essentiel dans une vie, les rencontres. C'est ça quand même c'est ça qui est déterminant. Et encore plus quand on est acteur.
Actrice. Alors vous ne seriez pas celle que vous êtes sans Chabrol, sans Haneke ?
Ah ben je ne serais certainement pas celle que je suis dans les films. Je serais peut-être celle que je suis dans la vie. Mais en tous les cas, c'est eux qui m'ont filmé, c'est eux qui m'ont regardé avant tout. Plutôt que filmé.
Celui qui vous a le regardé avec le plus de tendresse.
Mais il n'est pas forcément nécessaire de regarder avec de la tendresse. Parce que la tendresse, c'est pas quelque chose qui me caractérise particulièrement, ni en tous les cas qui caractérise...
vos personnages.
Les rôles que j'ai joué, non, qui m'a regardé avec attention, tout simplement, et avec intérêt, je dirais. Mais ça peut accueillir la tendresse, mais ça accueille bien d'autres choses. Enfin, ça accueille surtout la vérité, tout simplement, de regarder quelqu'un tel qu'il est, mais c'est déjà beaucoup, et puis d'écouter quelqu'un aussi. Et l'écoute, c'est fondamental, et c'est fondamental dans le jeu aussi.
Ça veut dire quoi, un metteur en scène qui sait écouter un acteur?
Ben, ça veut dire quelqu'un qui est sensible à son rythme, qui est sensible à son intonation, parce que le cinéma, c'est de l'image, mais c'est du son encore plus que de l'image, je crois. C'est du rythme. En tous les cas, c'est le fluide rythmique est fondamental, puisque c'est aussi le fluide qui circule entre les acteurs, le rythme.
Donc vous êtes plus sensible à des indications sur le rythme
oui.
qu'à des indications psychologiques.
Oui, ça de toute façon, il n'y a pas encore que souvent on entend un peu comme une vieille, enfin une antienne tout simplement. On veut pas être dans la psychologie. Finalement, au bout du compte, je sais plus très bien ce que ça veut dire de ne pas être dans la psychologie. À la fois, on la fuit, puis en même temps, on y est toujours aussi. On est toujours dans une définition des sentiments, des affects. Bon, c'est peut-être ça aussi, être dans la psychologie. Mais c'est effectivement pas forcément l'angle par lequel on aborde un travail, ou alors je dirais peut-être au moment du tournage, au moment où la chose se passe, c'est sans doute un peu tard pour l'aborder de cet angle-là. Au moment du tournage, on l'aborde d'une manière beaucoup plus artisanale finalement, justement, sur le rythme, sur les places. Et c'est parce que là, c'est un langage, et ce langage-là, effectivement, le langage du film, c'est pas un langage psychologique, c'est un langage formel aussi, qui passe par le son, qui passe par le cadre, qui passe, et ça, c'est un langage, et un langage que l'acteur comprend.
Et alors, parmi les cinéastes que vous avez côtoyés, celui qui avait le plus de rythme?
Ah, mais ils ont chacun leur rythme, on peut pas les comparer, justement. Et puis le rythme, ça n'a pas forcément à voir avec la vitesse, ça peut au contraire avoir avec la lenteur. Quelqu'un comme Bob Wilson, évidemment, a la science du rythme, justement.
Est-ce qu'on ose encore vous diriger?
Non. Mais si, bien sûr, mais on me dirige comme il faut diriger, comme il faut diriger, tout simplement.
Alors, il faut diriger comment?
Eh ben, il faut diriger comme ça. C'est, encore une fois, c'est un langage, donc il faut diriger, il faut savoir ce langage. Voilà. Et les grands metteurs en scène le savent, ce langage. Toute indication est juste pourvu qu'elle soit justifiée.
Alors, quand vous voyez qu'il n'a pas le langage, qui n'a pas le rythme, qui ne sait pas écouter, qui n'a pas le cadre.
Eh bien, ça m'arrive jamais, en fait. Ça m'est rare, très rarement. Je pense que ça peut être très douloureux. C'est rare. C'est très difficile de réparer ça. Voilà. C'est beaucoup d'efforts. J'imagine.
Même dans les premiers films que vous avez pu faire, tout le monde, tous les jeunes cinéastes.
J'ai fait plus de premiers films récemment qu'à mes tout débuts, parce qu'au début, j'ai tourner avec Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Michael Cimino, donc c'était pas des débutants.
Pourquoi maintenant oser les débutants?
Oh, mais je les ai toujours osés. Je dis ça un peu comme une pirouette, mais je les ai toujours osés dès le début, mais parce que la vie est longue et que encore une fois, au gré de toutes les rencontres, voilà, il y a ceux qui communément font leur premier film, leur deuxième film, ou qui, comme d'autres, font leur je sais pas combienième film, mais au fond, peu importe, parce que même celui qui fait son 45e film, il fait aussi son premier film au moment où il fait son 45e film. C'est évident. Il y a quand même quelque chose qui est, Dieu merci, qui repose pas sur l'expérience, ni sur le savoir-faire, mais qui repose sur l'impondérable, sur tout ce que le miracle qu'est le cinéma, qui est le miracle de l'instant.
Vous ne vous reposez jamais sur votre savoir-faire?
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire un savoir-faire. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Surtout,
non, une vraiment. Manière de regarder, de poser son corps, de.
Ah non, ça, non, je ne crois pas qu'on peut. Non, non. Encore une fois, je pense qu'un savoir-faire, j'imagine tout à fait qu'un danseur ou un chanteur. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours ces exemples-là, parce que j'ai un petit peu l'impression que pour un acteur, c'est un peu le stade ultime de l'expression, quelque chose que l'acteur n'atteint pas tout à fait, peut-être parce que j'ai en mémoire tout le temps les mots de Claude Régis qui me disait souvent.
Claude Régis, metteur en scène de théâtre.
Claude Régis, metteur en scène de théâtre, avec qui j'ai fait Psychose. 448 Psychose. Oui, deux choses, effectivement, oui. 448 Psychose de Sarah-Kane, au Théâtre des Bouffes du Nord, et Jeanne Aubuchet à l'Opéra Bastille. Alors, Claude Régis avait cette formule qu'il aimait beaucoup répéter. Et il disait, la musique n'est pas sensique. Alors, on pourrait dire la même chose aussi de la peinture. C'est-à-dire, échappe au sens. Et au-delà du sens. Et c'est certainement une très grande richesse et presque sans doute un confort aussi d'explorer un territoire qui est affranchi de la définition du sens comme peut l'être l'art dramatique.
L'art dramatique.
Bah, on est. Faut bien qu'on dise quelque chose. Enfin, moi, je, oui, ou alors on peut retourner.
Parce
au
qu'on vous a reproché parfois de jouer un peu de la même façon.
Ah bon? Je savais pas. Oui, mais peut-être. Ah oui. Je
parce qu'on parlait de savoir-faire.
Oui. Si ça peut être perçu comme ça, non, c'est pas du savoir-faire à ce moment-là. C'est une manière d'être. C'est pas tout à fait pareil.
Et comment c'est vous la définiriez, cette manière d'être-là?
Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une répétition d'un film à l'autre, mais c'est tout à fait possible que ça soit perçu comme cela. Moi, c'est mon sentiment de la vérité vis-à-vis d'une situation plutôt que d'un rôle, je dirais, parce qu'en fait, ou d'un état que j'ai à exprimer, qui me, au moment où je l'exprime, me paraît être le seul possible. Mais c'est pas forcément ressenti comme ça par celui qui regarde.
Comment quelqu'un comme vous, boulimique de travail...
Mais je ne suis pas boulimique de travail. Non, je ne crois pas être... La boulimie, c'est quand même... C'est un mot fort, c'est un mot qui ne convient pas tout à fait. Là. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui me traversent, mais pas la boulimie en tous les cas. Une forme d'addiction peut-être. Alors la boulimie est une forme d'addiction, je le constate, mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce que la boulimie, c'est vraiment... c'est jusqu'à l'écœurement, et ce qui n'est pas mon cas.
Donc, addict au travail.
Tout ce qu'on aime profondément crée forcément une dépendance, parce qu'on ne peut pas être toujours satisfait. Ça crée un besoin. Donc, si ça crée une dépendance, c'est pas un sentiment qui est toujours complètement favorable. Mais.
Et c'est quoi votre shoot de jeu quand vous jouez, s'il y a dépendance?
C'est l'oubli plutôt qu'autre chose. C'est un sentiment assez agréable d'être à la fois très près du réel et en même temps très très loin. C'est pas toujours facile à décrire. Un peu comme on a bu, mais enfin c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est un état extrêmement agréable, tout simplement. Mais c'est pas non plus,
Comment lévitation? Comment?
Je sais pas. Moi, j'ai jamais fait lévitation. Je ne fais pas de yoga. Il paraît que c'est.
Mais vous avez bu.
Pardon?
Mais vous avez bu, puisque vous dites que c'est comme quand on a bu.
Mais je sais. Oui, ce que ça veut dire d'un petit peu d'être ivre, un petit peu quelquefois. Enfin, je l'ai su parfois. Mais enfin, c'est pas tout à fait pareil, non. C'est un état. Mais c'est un état très simple, hein, tout simplement. Comme quand on fait quelque chose qui vous plaît, alors on oublie un peu tout. Voilà. Tout simplement. C'est pas non plus, c'est pas très sorcier non plus. Hein. C'est vrai que je privilégie plus cette sensation-là que l'idée d'un effort, l'idée d'une chose particulièrement difficile à atteindre, même si, encore une fois, bien sûr qu'à l'intérieur de ça, il peut y avoir des intensités, pas du tout destructrices, mais qui peuvent, en tous les cas, celui qui regarde le film, qui peuvent paraître très difficile, mais ce qui domine avant tout, c'est ce sentiment de légèreté, tout simplement. Et c'est très agréable.
Il y a des rôles qui vous ont fait peur, je pense à la pianiste ou à elle de Verhoeven. Vous n'y êtes quand même pas allé la fleur au fusil le matin, non?
Aussi, vraiment, oui.
Vous n'aviez pas peur?
Ah, pas du tout, non. Mais j'avais aucune raison d'avoir peur. Parce que la peur va avec la méfiance aussi. Au fond. Donc, comme il n'y avait aucune méfiance, qu'il n'y avait que la confiance, il ne pouvait pas y avoir.
Vous n'avez jamais peur avant d'aborder un rôle?
J'ai peur. Non, jamais.
Juste de ne pas être à la hauteur?
Ah non, jamais non plus. Non, parce que je crois que le cinéma fait feu de tout bois aussi. C'est un médium extrêmement puissant, le cinéma, la scène aussi. Enfin, la scène, c'est encore autre chose. On pourra en parler, mais c'est un petit peu plus périlleux, on va dire. Alors que le cinéma, ça n'a rien de périlleux. Et surtout, parfois, oui, je peux me dire, tiens, ça, je sais pas du tout comment je vais le faire. Et en même temps, je me dis, c'est pas grave, ça servira aussi. D'abord, d'une part, je me le dis pas très souvent. Et si d'aventure je me le dis, eh bien, je me dis que de cette petite incertitude, ça va déposer quelque chose qui finalement servira à quelque chose. Voilà. Rien ne sert à rien, en fait. J'ai l'impression, au cinéma.
Et au théâtre, vous disiez que c'était plus périlleux?
Oui, le théâtre, c'est quand même une aventure, le théâtre. C'est une aventure assez folle. Enfin, en tous les cas, elle est aussi beaucoup les spectacles que j'ai eu la chance de faire avec des gens aussi particuliers que Bob Wilson ou Christophe Arlikowski.
Luc Bondy, Claude Régis.
Claude Régis, enfin voilà.
Vous avez même joué en anglais.
J'ai souvent
joué à Londres,
anglais,
à New York.
Absolument. En Australie.
En Australie.
Si, oui. C'est juste le fait d'être un être vivant devant des êtres vivants. Et en même temps, il y a aussi un principe peut-être de, à un moment donné, de se sentir aussi invincible, comme autant qu'on l'est sur un champ de caméra. Quelque chose qui vous protège absolument aussi. Alors que, a priori, évidemment, l'expérience théâtrale est quelque chose qui vous expose et qui, mais il y a aussi quelque chose qui vous protège. Je ne sais pas quoi. J'aime toujours beaucoup cette formule de Grotowski qui dit jouer, c'est pas une aventure entre soi et le public, ça n'est pas une aventure. Donc ça rejoint un petit peu ça, parce que c'est pas une aventure entre soi et le public, contrairement à ce qu'on pourrait penser de ce fameux contact avec le public. Ce n'est pas une aventure entre soi et son partenaire, ça n'est pas une aventure entre soi et soi, mais le mot d'ailleurs est inexact, je pense pas que ce soit aventure, mais enfin, admettons que ça soit aventure, c'est certainement un mot un petit peu mieux que ça, mais c'est entre soi et quelque chose de très mystérieux au-dessus de soi, sans que ça soit non plus une invocation religieuse, hein. c'est pas ça qu'il veut dire, mais voilà, il y a quelque chose qui vous...
Une transcendance. Vous l'avez éprouvé parfois, oui.
Ah ben, je suis bien obligée de l'éprouver parce que sinon on peut s'arrêter tout de suite parce que c'est comme ça. Ça représente quand même un événement incongru mais qui existe depuis presque la nuit des temps. Finalement, c'est une expérience quand même qui se renouvelle inlassablement. Après, puis qui se pratique partout. Enfin, en principe, pas en ce moment, mais.
Alors justement, en ce moment-là, nous sommes au Théâtre du Rond-Point, dans une salle hélas vide, même si nous sommes nous sur le plateau. Comment une actrice addicte au travail et pas boulimique vit cette période de confinement ?
Il y a eu deux confinements. Le premier était évidemment plus extrême que le deuxième, en tous les cas, en ce qui me concerne, parce que moi je fais partie des gens extrêmement privilégiés, je dois dire, qui travaillent assez régulièrement en ce moment. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. C'est une période qui est vraiment extrêmement difficile. On passe entre résignation, colère.
Je me souviens, je vous avais proposé d'intervenir dans Télérama et vous n'aviez pas voulu. Vous m'aviez dit que c'était trop compliqué.
Oui, non, j'y tenais pas à ce moment-là, c'est vrai.
Parce que ça vous stressait?
Pas spécialement, non, j'étais pas du tout. Et pourtant, j'ai arrêté de jouer La Ménagerie de verre au Théâtre de l'Odéon au bout de 6 représentations. Mais je l'ai pas vécu sur ce mode anxiogène ou non, pas spécialement, non. Je l'ai vécu autrement.
Et vous avez travaillé, vous avez lu, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps? Qu'est-ce que fait un artiste habitué à jouer
Pas forcément d'ailleurs... Un artiste ou un... Oui, j'ai lu beaucoup, oui.
Et vous avez lu quoi?
Des livres.
Mais quel genre? Des romans, des essais?
Non, des romans, oui. Des romans, j'ai vu beaucoup de films. J'étais frappée, beaucoup de gens disaient qu'ils ne pouvaient pas lire. Moi, je ne pouvais plutôt que lire, mais voilà.
Et ce deuxième confinement, donc vous continuez à travailler?
Oui, j'ai tourné des films, oui, oui. Je le dis, pas du tout avec regret, mais je mesure la chance qui m'est donnée, surtout.
Des films à l'étranger,
oui.
En France?
Oui, et en France, oui.
Et si jamais vous ne jouiez pas, qu'est-ce qui se passerait?
Si je ne jouais plus jamais, de toute façon, personne ne se dit qu'il ne jouera plus jamais. C'est interminable, mais c'est encore une fois vécu dans des conditions extrêmement difficiles pour les musiciens, pour les danseurs, pour les acteurs de théâtre, pour ceux qui ne les font pas, justement, c'est extrêmement douloureux. Mais dans un temps donné, je ne peux pas dire, moi, que ça m'ait non plus, dans un premier temps, fait souffrir particulièrement.
Avec le recul, vous êtes quelqu'un qui, visiblement, n'a pas peur et c'est formidable. Même pas le trac avant de rentrer en scène.
Ah si, beaucoup. Ah si. Mais c'est même pas le trac, c'est autre chose. La peur est pas toujours la même aussi dans le déroulement du spectacle.
D'abord, il y a un moment donné, la peur vous quitte quand même, heureusement. Et puis la peur vous quitte pendant le déroulement du spectacle, et la peur vous quitte aussi. On n'est pas dans le même état le soir d'une première, par exemple, que le 25e soir. Mais tout d'un coup, on peut y revenir aussi. C'est très curieux.
Alors, comment vous avez vécu rétrospectivement tout le mouvement MeToo dans vos métiers du cinéma, où ça a agité pas mal de choses
Si ça a agité beaucoup de choses, c'est y avait des choses qui méritaient d'être dites et elles ont été dites et il fallait qu'elles le soient et ça c'est formidable. Voilà. Après, on remet les choses en perspective. Les choses, parfois, il y a des choses qui sont. On fait pas d'omelette sans casser des œufs non plus, mais il faut faire les omelettes de toute façon, donc c'est indispensable. Et c'est curieux parce que l'autre jour je me disais parce que j'entendais comme ça des choses comme des discours comme ça un peu hâtifs sur comment ça peut modifier les rôles ou des choses comme ça. Et je me disais au fond, bon, moi je voyais pas tout à fait les choses comme ça. Je me dis c'est pas tellement la nature des rôles que ça doit modifier, c'est surtout la place qu'on donne à des rôles féminins, de quels qu'ils soient, et place que j'ai toujours à la fois souhaitée et au fond revendiquée et obtenue dès que j'ai commencé à faire des films. J'ai toujours instinctivement senti qu'il fallait que la femme, elle soit au centre. Alors pas forcément revêtant les oripeaux des conquérants masculins, mais en tous les cas qu'elle soit au centre. Et après, je me dis bon, peut-être que ça modifie aussi la nature de certains rôles, je sais pas. Ça fait réfléchir en tous les cas.
Vous n'avez jamais eu à subir de harcèlement ou de pression dans votre métier?
Écoutez, non. Moi, je n'ai pas eu à subir ce genre de situations qui sont certainement insupportables à subir pour celles qui les ont subies, bien sûr.
Et comment vous l'expliquez, ça?
J'ai pas d'explication. Non, je...
C'est votre distance par rapport aux choses?
Ah non, je crois pas. Non, ça n'a rien à voir avec la distance. Je pense pas qu'il y avait des distances justement qui étaient franchies par celles qui ont eu à subir les avatars de ces situations. Non, pas du tout. Enfin, en tous les cas, qu'elles auraient franchi elles, pas du tout. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vécu.
Les choses ont changé maintenant? Ou depuis 2 ans, depuis 3 ans? Vous avez l'impression que la place de la femme a un peu bougé en matière de scénario?
Oui, mais
de
les choses doivent changer, pas uniquement dans le milieu du cinéma, elles doivent changer en général, et ça c'est encore des combats beaucoup plus importants, parce que tout combat évidemment est légitime, ô combien est important, et chaque combat est personnel et même collectif, mais dans un certain cercle, rebondit, rejaillit sur les combats des autres. Hein. C'est évidemment un combat très très collectif. Les choses ont changé, certainement pas encore tout à fait assez, bien sûr. Il y a toujours à faire dans ce domaine.
Est-ce que vous avez l'impression, c'est ce qu'on se disait au début, que dans votre manière de travailler, par exemple, vous avez évolué dans votre manière d'aborder le travail?
Pas du tout, non. Moi,
vous travaillez toujours de la même façon?
Il me semble, oui, il me semble. J'ai pas du tout le sentiment de... Mais je suis pas, il n'y a pas que moi dans cette aventure. Encore une fois, je travaille pas toute seule, je travaille à plusieurs. Donc, mais j'ai, dans ma pratique personnelle, j'ai pas le sentiment du tout que les choses que moi j'ai changé quoi que ce soit, ou que j'ai dû changer quoi que ce soit, tout simplement. Pas du tout.
C'est-à-dire, Isabelle Huppert, face à un personnage qu'on vient de lui proposer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit un scénario, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle dit oui si le scénario lui plaît, et après? Comment ça se passe?
Après, il y a quelque chose qui se répand en soi. Il y a aussi un travail qui se fait à votre insu. Et il faut faire confiance à ça, parce que d'abord c'est très confortable. On n'a pas besoin finalement. On lit un scénario, comme vous dites, on décide de faire. Bon, il y a toutes les épisodes qu'on peut imaginer dans le processus qui va vous amener vers un film, la rencontre, les essayages des costumes. Enfin voilà, tout ce chemin qu'on parcourt qui va vous mener. Et puis parallèlement à ça, il y a la connaissance de cet objectif, de savoir qu'on va faire ce rôle, tel ou tel rôle avec. Et puis il y a quelque chose qui qui infuse en soi, comme une sorte de personne virtuelle qui occupe votre cerveau, parfois un peu votre corps, si vous pensez tout d'un coup à la manière dont, je sais pas, vous allez marcher, c'est très important, hein, les démarches dans un film. Alors ça fait son chemin. Et c'est ça qui vous amène devant une caméra, finalement.
La démarche est importante.
Oui, je pense à la démarche parce que, oui, c'est important. Il y a chaque chaque personne, personnage dans un film, oui, à sa manière de, ça raconte quelque chose en tous les cas. Le rythme, encore une fois, marcher vite, marcher lentement. Alors c'est pas du tout quelque chose qu'on prévoit à l'avance. Tout ça, c'est des sensations extrêmement diffuses. Hein. C'est comme des petits flashs comme ça qui se propagent à l'intérieur de soi, peut-être en dormant aussi, je sais pas.
Le corps est au moins aussi important que la tête dans le travail de l'acteur.
Il n'est pas dissociable de la. Les gestes, ils vont arriver, ils vont advenir au moment où ça se passe. Mais il y en a qu'on peut imaginer, absolument, à l'avance. Tout est un peu intangible, c'est ça aussi que j'essaye de dire. Voilà, c'est un travail comme ça préparatoire, mais qui se fait un peu de manière un petit peu, qu'on peut pas vraiment définir. C'est ça qui est. Mais qui n'en est pas
moins. Mais que vous ne voulez pas définir.
Parce qu'elle est indéfinissable. C'est pas que je ne le veux pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça, en ce qui me concerne, en tous les cas, ça passe pas par une préparation. Alors il y a des metteurs en scène, par exemple, qui adorent répéter, d'autres non. Mais alors là, moi, je suis très, tout me va. Je me soumets à tout dispositif qui est exigé. Chacun fait comme il l'entend.
Plus l'âge vient et plus vous avez l'air juvénile.
C'est gentil, merci.
Mais est-ce que l'âge est quelque chose contre lequel vous luttez ?
C'est pas difficile, c'est plutôt que les gens ont tendance à se voir dans un visage d'une actrice, j'imagine. Enfin, mais non, moi c'est jamais vraiment une question que je me suis posée. Donc, pas du tout.
Vous faites attention à votre image, quand même.
C'est pas faire attention à... Ça, je dirais, ça, c'est vraiment la moindre des choses. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Même si dans image, il y a âge. Il est vrai. Mais im avant âge, je sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Il faudrait trouver pourquoi il y a âge dans image. Mais ça n'a rien à voir. C'est deux notions qui sont totalement dissociables, pour moi.
Parce que Laure Adler a fait un livre là-dessus pour dire qu'à partir de 60 ans, c'est très, très difficile pour une femme de vieillir, d'avoir des rôles. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous vous êtes confrontée ou pas?
Moi non, mais j'ai rien à dire dessus parce que c'est pas un obstacle pour moi. Mais c'est pas un obstacle parce que ça n'en est pas un, si je puis dire. Comment on appelle ça? C'est difficile parce que c'est difficile. Donc voilà, c'est pas un obstacle parce que c'est pas un obstacle.
Pourquoi cette volonté de temps en temps, assez régulièrement, de casser votre image par des rôles? On parlait de la daronne, par exemple. C'est pas évident de vous voir dans la daronne, la pianiste, l'actrice de Haneke, de Chabrol. Pourquoi dans votre parcours, cette volonté?
Mais c'est pas une volonté du tout.
Vous choisissez.
Ah oui, mais choisir, c'est pas vouloir, hein. Ça n'a rien à voir, je crois.
Ah bon?
Non. Choisir, c'est aimer aussi. C'est pas, enfin, j'associe pas du tout ça à une volonté. J'associe ça tout au plus à une gourmandise. Mais pas à une volonté, en tous les cas. Il n'y aurait pas un préambule justement volontaire qui consisterait à... Il n'y a pas de causalité, je ne le fais pas pour quelque chose, je le fais pour moi, parce que ça me plaît tout simplement. Mais ce n'est pas pour modifier...
C'est pas pour modifier la perception qu'on peut avoir de vous?
Ah, pas du tout. Non, c'est juste parce que ça me plaît de le faire, c'est tout. C'est comme, je sais pas, choisir un gâteau
de
pâtisserie. Oui. Ça m'amuse, ça fait pas que... ce n'est pas... Comment ça ne fait pas que m'amuser, ça m'intéresse aussi. si vous prenez cet exemple précis de la daronne, c'est pas ça m'intéresse parce que c'est aussi un portrait de femme, c'est un roman que j'ai aimé dans un premier temps, le roman de Anne Lorquer. Enfin, il y a un peu de sens par derrière. Il n'y a pas uniquement s'amuser et penser qu'on va faire quelque chose pour faire rigoler les gens. Ça s'inscrit dans un quelque chose de plus vaste aussi.
Quand vous avez fait cette exposition avec tous ces portraits de vous par des plus grands photographes et puis après un livre magnifique qui en a été tiré, ça répondait à quel objectif, quelle envie de ce...
Alors ça, c'était au départ, c'était l'idée d'associer...
Ça a été exposé, une exposition à New York, hein, je crois.
Oui, ça a été exposé à New York, à Tokyo, ça a été exposé dans énormément de pays. Mais au départ, c'était l'idée d'inventer une sorte d'événement, on va dire, qui viendrait en contrepoint d'une rétrospective qui m'était consacrée à la Cinémathèque. Et puis finalement, ça, au départ, c'était ça un peu l'idée, c'était qu'il y ait quelque chose de plus. C'est devenu quelque chose en soi. Ça n'est pas devenu quelque chose de plus, mais c'est devenu quelque chose en soi. Et c'est devenu quelque chose en soi parce que très vite, un peu comme un négatif de photos qui apparaîtrait lorsqu'elle est développée, c'est légitime de faire cette comparaison parce qu'il s'agissait de photos. Au fond, très vite, on s'est aperçu qu'en mettant toutes ces photos les unes à côté des autres, et on a eu envie d'en mettre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce que je crois qu'il y en a 120, ça devenait une exposition sur les photographes. Avec un modèle qui était unique, mais qui révélait les photographes peut-être autant que je n'étais révélée moi-même. Et c'était évidemment l'intérêt de l'exposition.
Vous voir sous le regard de quelqu'un, est-ce que ça vous a appris des choses sur vous ? Est-ce que vous cherchez quelque chose sur vous que vous n'avez pas trouvé encore à travers leur regard ?
Non, mais ça m'a appris, ça apprenait quelque chose sur les photographes, ça apprenait...
Et sur vous, rien ?
Pas plus que peut-être que je ne savais déjà que... Un autre visage que le mien, finalement, soumis à la même expérience, au fond, apparaissait et disparaissait autant que le mien. Parce que c'était ça, moi, que j'ai trouvé intéressant. C'est que ça, le visage, évidemment, apparaissait, c'était le mien. Mais il disparaissait parce que vous aviez peu de points communs entre une photo de Jacques-Henri Lartigue, par exemple, et une photo de Helmut Newton. Mais vous aviez Jacques-Henri Lartigue et Helmut Newton qui étaient présents.
Et la photo, le photographe qui vous a le mieux révélé pour vous ?
Oh, il n'y en a pas un qui m'a plus et mieux révélé qu'un autre, je crois. Non, non, ils m'ont révélé chacun différemment et parfois avec autant de contraste que peut l'être un visage d'actrice qui est, j'allais dire, peut-être aussi légitime au fond dans ce qu'on pourrait, disons qu'on oppose souvent une forme de naturel à la sophistication. Enfin, il y a toute une panoplie par laquelle un visage d'actrice peut être décliné ou peut se soumettre. Mais il n'y a pas forcément moins de vérité dans l'artifice que dans le naturel dans un visage d'actrice, parce que ça fait aussi partie. Il peut y avoir une très grande vérité dans l'artifice, dans la composition. Que dans l'extrême naturel ou dans l'extrême nudité d'un visage.
Dans votre panthéon personnel, quel parcours d'acteur ou d'actrice du passé ou d'aujourd'hui vous fait rêver ?
Il n'y a pas un parcours qui me fasse rêver. Il y a des moments qui me font rêver. Il y a des, enfin, qui me font rêver, qui me font pas rêver,
qui vous stupéfient.
Oui, il y a des, bien sûr, il y a.
Quelle scène, par exemple, interprétée par une autre ou un autre ?
Ben, je sais pas, l'autre jour, je revoyais des films avec Shirley MacLaine, bluffé. J'ai pas forcément envie d'être bluffé, parce que j'ai envie d'être touché, plutôt, ou d'être. Mais c'est vraiment une actrice extraordinaire. Je la prends, oui, un peu comme exemple, comme ça. Parce qu'il se trouve que j'ai vu des films d'elle tout à fait récemment.
Vous avez une carrière magnifique, Isabelle Huppert, que vous avez conduite en vraie magicienne, en allant choisir les bons cinéastes, les bons metteurs en scène de théâtre, en vous trompant jamais sur un rôle, finalement. Quel est votre secret ?
Il y en a plusieurs, je pense. Au fond. Oui, on est toujours... Il n'y a pas comme ça une formule miracle qui vous définit. Et j'ai peur d'être d'une grande banalité, mais une curiosité, tout simplement. Un élan de vie aussi, précieux. Je ne sais pas le dire plus simplement.
Vous êtes mère d'une magnifique comédienne aussi, Lolita Chamard. Quel conseil vous lui donnez ?
Alors là, la transmission, c'est... Enfin, je ne sais pas pourquoi tout de suite le mot de transmission me vient, mais je crois qu'il y a forcément une forme de transmission entre soi et ses enfants. Et évidemment qu'elle passe la plupart du temps plus par un exemple involontaire que par toute formule ou tout conseil. Je ne lui donne pas forcément des conseils qui pourraient être aussi... qui peuvent être entravants aussi, qui peuvent vouloir enlever de la liberté. Chacun se construit aussi comme il l'entend. Une manière d'être aussi, peut-être, fait figure de conseil.
Quelle manière d'être ?
Bon, celle que j'essayais laborieusement de définir, tout simplement, une curiosité, un plaisir aussi de faire ce que je fais. Tout ça. C'est assez simple, hein, c'est pas non plus des choses... un grand, grand plaisir. Tout simplement. Et c'est une chance parce que s'il y a plaisir, ça veut dire forcément qu'il est délesté de tout. Encore une fois, si le plaisir est toujours de l'effort, et évidemment qu'il y a la notion du travail, hein, que j'ai l'air d'évacuer et d'oublier.
C'est votre chic.
Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être, oui, peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite méprise comme ça sur l'idée d'un fardeau, d'un travail, mais il y a aussi une réalité, hein, sur le fait que, très sincèrement, à la fois j'ai l'impression de travailler, mais que j'ai pas du tout la notion d'effort dans mon travail, pas du tout. C'est comme ça, je peux pas inventer quelque chose qui n'existe pas.
Vous êtes heureuse, donc?
En tous les cas, je suis au moment où je fais quelque chose qui me plaît, je suis heureuse. Oui, j'imagine que on peut appeler ça comme ça. Voilà, j'imagine. Oui, quand même.
Merci, Isabelle.
Merci à vous.
À bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.